Alors, chers amis, je vous invite à prier et ensuite on essaie de voir ensemble la portée de ce texte encore pour nous à notre époque. Prions ensemble. Merci Seigneur que ta parole est vérité. Merci que ton esprit vivifie encore nos esprits pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Et donne-nous des cœurs ouverts pour que nous mettions en pratique ce que tu nous dis. Et nous te demandons cela pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, à la fin du 17e siècle, il y avait un homme qui s'appelle Matthew Henry. C'était un commentateur biblique. Et il s'est fait cambrioler. Peut-être que vous connaissez déjà cette histoire. Et après avoir été cambriolé, le soir, il écrit dans son journal ceci. « Je te remercie d'abord parce que je n'ai jamais été volé auparavant. Deuxièmement, parce que bien qu'ils aient pris ma bourse, ils n'ont pas pris ma vie. Troisièmement, parce que bien qu'ils aient pris tout ce que j'avais, ce n'était pas grand-chose. Et quatrièmement, parce que c'est moi qui ai été volé et non pas moi qui ai volé. » Alors pourquoi cet exemple de Matthew Henry? Car cela illustre pour nous, je pense, les principes exposés à la fin du livre de Philippiens. Le contentement, peu importe nos circonstances, et l'attitude aussi qu'il faut avoir par rapport à l'argent, afin d'être généreux, nous aussi. Et ce sont là deux principes indispensables pour la vie chrétienne, comme j'ai intitulé ce message que vous allez voir sur le dos des prières là, que vous avez sous les yeux. Indispensable. Sans pratiquer ces deux principes, nous sommes trop vite exposés aux aléas de la vie, trop vite perturbés par l'une ou l'autre chose, trop vite repliés peut-être sur nous-mêmes, trop lents à donner généreusement pour le soutien de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut se rappeler que l'église à Philippe, c'est une jeune église. Et Paul, l'apôtre qui a implanté cette église, il est très reconnaissant envers Dieu pour cette église à Philippe. Rappelons-nous le tout début, maintenant que nous sommes à la fin, rappelons-nous le tout début de cet épître, chapitre 1, versets 4 et 5. « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. » Alors pourquoi? Il continue « à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Il apprécie le partenariat, la solidarité qu'il y a avec lui dans cet Évangile. Ils sont concernés, cette Église à Philippe, cette jeune Église, pour le progrès de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils sont reconnaissants pour le partenariat qu'ils ont avec Paul, pour son travail d'implantation et son travail d'édification des églises. Il continue au chapitre 1, verset 7. « Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. » Ils sont solidaires avec lui dans sa tâche de proclamer l'Évangile, d'édifier d'autres églises dans l'Évangile. Et il prie que cela continue. À la fin du chapitre 1, verset 27, qu'est-ce qu'il avait dit? « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur. Pourquoi? Pour la foi de l'Évangile. » Et c'est pour cela, pour qu'ils combattent encore pour la foi de l'Évangile, que Paul écrit ce dernier paragraphe que nous venons de lire. Les Philippiens ont contribué à son soutien financier. Il y a eu Épaphrodite, on a déjà eu l'occasion de remarquer cet Épaphrodite, qui a été envoyé par des Philippiens envers Paul pour apporter le don qu'ils avaient préparé pour l'apôtre Paul et pour son équipe. Verset 18, nous lisons cela ici, dans le chapitre 4. « Ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. » Il fait référence à ce don qu'ils ont envoyé de par Épaphrodite. Mais recevoir de l'argent de la part d'une église que Paul lui-même il a implantée est en fait une question assez délicate pour l'apôtre. Car lui, il veut bien faire distinction entre sa joie de voir que les Philippiens sont concernés par le progrès de l'Évangile et le danger de croire que Paul, comme peut-être d'autres orateurs sur le circuit romain de l'époque, faisait de sa foi un peu son business, que sa motivation en promulguant la foi chrétienne était ultimement de bien vivre de par les dons de ses adeptes. Il ne voulait pas tomber dans cette erreur. Et certains ont encore ce souci aujourd'hui au sujet de l'Église, peut-être au sujet même de notre Église, une Église évangélique. Est-ce que ce n'est pas ça ce qui se fait dans les Églises évangéliques? Ils demandent toujours de l'argent. Parfois, d'ailleurs, il y a une réaction parfois surprenante, mais agréable de la part de certaines personnes qui nous rendent visite dans cette Église. Mais vous ne m'avez pas demandé pour mon argent. Comme si c'était une attente pour toute personne qui vienne. Il faut donner, il faut donner, il faut donner. Il faut faire distinction entre la proclamation du message et le soutien dont l'Église a besoin. Et l'apôtre, il est soucieux, dans ce contexte, donc, de les remercier, les Philippiens, pour leur don, tout en établissant, en quelque sorte, qu'ils n'en avaient pas besoin. Cette tension, je pense, se voit dans le texte, verset 10. Comment est-ce qu'il commence ? J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi, c'est-à-dire le don que vous nous avez apporté. Mais ensuite, il ajoute, cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Ça, ce n'est pas une critique, c'est juste les circonstances faisaient qu'il n'était pas en mesure de donner à Paul à un moment donné. Mais verset 11, je ne dis pas cela en raison de mes besoins. Car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Donc vous voyez, il met de la distance entre leur don d'un côté et son besoin de ce don. Leur don fait bon signe, l'encourage, mais ce n'est pas un paiement pour des services rendus. Ce n'est pas de salaire parce qu'il a été l'implanteur chez eux. Non, Paul n'avait pas besoin de ce don. Il expliquera pourquoi par la suite. Mais néanmoins, le don l'a encouragé. Et donc, nous allons essayer de voir, dans le temps qui nous reste, les deux faces de cette même pièce, si vous voulez. Le contentement de Paul, dans toutes circonstances, et la générosité des Philippiens. On aurait pu aborder ces deux points dans l'ordre inverse, bien entendu, car les deux principes sont intercalés un peu dans ce texte. Mais commençons donc avec le contentement de Paul. Et j'ai dit ici que cela, c'est une preuve de maturité chrétienne qui ne dépend pas des circonstances. Ensuite, nous verrons la générosité de Philippiens, une preuve de solidarité chrétienne pour le progrès de l'Évangile. Mais d'abord, donc, le contentement de Paul. Pourquoi Paul peut-il dire qu'il n'avait pas besoin de ce don qu'il a reçu? Car verset 11, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. L'état dans lequel il se trouvait variait en fonction de ses circonstances. À lui, au moment où il écrit, il se trouve emprisonné à Rome pour sa foi. Et il a appris à se contenter de ses circonstances. Verset 12, je sais vivre dans l'humiliation, humblement, dans la pauvreté. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, ou le manque, ou dans le besoin. C'est important de saisir ce qu'il dit ici. Il sait vivre dans les deux circonstances. L'abondance et l'humiliation. Il a appris cela. Cela était donc un processus, car il était confronté pas beaucoup de circonstances variées. Et c'est important à ce stade, je pense, de balayer une mauvaise compréhension de ce qu'il dit. Car parfois, je pense, nous imaginons à tort que Paul dit quelque chose semblable à ceci. Qu'il a appris, à travers ses souffrances, à persévérer lorsque tout ne tourne pas rond pour lui. Comme c'était le cas à plusieurs reprises pendant ses voyages, il a appris à faire face donc à la disette. Pourquoi? Car il savait, c'est ça ce qu'on dit, hein, car il savait que de moments d'abondance l'attendaient, que lorsque le don des Philippiens donc arrivait, à ce moment-là, tout allait bien, car il se trouvait dans l'abondance, ses besoins étaient comblés. Est-ce que c'est ça ce qu'il veut dire? Non, parce qu'il a aussi appris à vivre dans l'abondance. Oui, même dans l'abondance, il fallait apprendre à ne pas se fier à des circonstances plus prometteuses pour lui. À ne pas croire que le bonheur se trouvera rien que dans des circonstances matérielles plus luxueuses. Ah, enfin, ce don des Philippiens, cela est arrivé. Ah, c'est super, ça, je peux me permettre donc un loyer maintenant un peu plus élevé. Cela me donnera un peu plus de confort, avec lequel je peux enfin être heureux. Ah, c'est chouette que le don est arrivé à temps. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour Paul. Il a appris comment ne pas attacher son contentement ni à la pauvreté, ni à la richesse. Car dans les deux cas, il y a ce danger. La Bible ne reconnaît aucunement un état supérieur d'être pauvre. Il ne faut pas encourager des vœux de pauvreté pour viser un niveau de spiritualité supérieur. Ce n'est pas en se débarrassant de ce monde matériel que nous allons trouver la vraie spiritualité. Non. La Bible nous met en garde contre une telle pensée. Proverbes chapitre 30, verset 8, peut-être vous le connaissez. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai, une fois rassasié, de te renier et dire qui est l'Éternel. » Ou, après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Alors, comment trouver un contentement indépendamment de mes circonstances, mauvaises ou bonnes? Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset 19 précise que celui qui le fortifie, c'est Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Alors, l'apprentissage de Paul n'est donc pas un apprentissage stoïque, si vous connaissez ce terme-là, une philosophie à ne pas tomber à la proie de nos émotions, mais de tenir le contrôle de soi, quoi qu'il en soit, à apprendre d'être dépendant de personne d'autre, ni des circonstances, qu'ils soient positives ou négatives. C'est la saison du tennis pour les Britanniques pour le moment, et donc c'est Wimbledon qui préfère plutôt que Roland-Garros. Je pense que c'est parce que le gazon est super beau, mais je vous laisse discuter ça entre vous. Et lorsqu'on regarde le tennis, je pense que j'admire les joueurs qui gardent leur sang-froid à tout moment. Au lieu de donner libre cours à leurs émotions chaque fois qu'ils gagnent ou qu'ils perdent un point. C'est généralement ceux-là qui maîtrisent mieux le jeu. Mais ici, il ne s'agit pas de tels joueurs, d'une autosuffisance. Non, il s'agit d'une dépendance de Dieu. Il a appris qu'il peut tout faire par celui qui le fortifie. Évidemment, le tout ici, lorsqu'il dit « je peux tout », alors cela se comprend par son contexte. « Je puis tout » fait référence à ces circonstances, bonnes et moins bonnes, dont il vient de parler, bien entendu. Ce n'est pas une promesse pour tout et n'importe quoi. « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux réussir mes examens, je peux avoir un nouveau poste au boulot, je peux exiger une augmentation de salaire, je ne peux pas perdre mon travail, je peux être en bonne santé, je peux tout par celui qui me fortifie. Non. Ça, c'est de traiter la Bible avec du mépris et pas selon son contexte. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il peut faire face à toutes circonstances, bonnes ou moins bonnes, car il y a celui qui le fortifie. Il a appris à se contenter de l'état dans lequel il se trouve, à ne pas dépendre de son état actuel pour son contentement, mais de dépendre de Dieu. Cela lui permettait de connaître la joie, oui, même la joie, lorsqu'il était persécuté en prison pour sa foi. Qu'est-ce qu'il a dit quelques versets plus tôt? On a vu ça la semaine dernière, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Trouvez un contentement en dehors de mes circonstances. Oui, un contentement. Cela est le secret appris par l'apôtre Paul. Il a trouvé son contentement en Dieu. Alors, comment est-ce qu'il a trouvé son contentement en Dieu? Alors, cela n'est pas précisé à ce stade par l'apôtre lui-même. Mais n'oublions pas ce qui a précédé. Chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et il a trouvé cette paix. Il connaît cette paix, même lors des mauvais moments. Chapitre 3, verset 8. « Je considère même tout, tout, il dit. » C'est-à-dire même la réussite, même son grand CV religieux qu'il avait. Le confort matériel, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Car en Christ, il a trouvé une justice qu'il n'avait pas en lui-même, mais qui vient de Dieu, donnée comme un don qu'il reçoit par la foi. Verset 10 du chapitre 3, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Donc il connaît la puissance de Dieu à l'œuvre en lui, non pas parce qu'il est à la hauteur, mais parce que Christ, dans sa grâce, daigne d'œuvrer en lui. Verset 20 du chapitre 3, quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alors que ce monde actuel dans lequel nous vivons nous offre abondance ou pauvreté, peu importe, dit l'apôtre Paul, quand nous les croyons en Christ, nous avons quelque chose de meilleur, supérieur. Et la puissance de Dieu œuvre en nous en vue un jour de notre propre résurrection avec le Christ dans la gloire. Bien qu'ici là, d'ici là, je sois conforme à Christ dans ses souffrances. C'est profond ce que l'apôtre Paul a pu découvrir en Christ. Le non-croyant en Jésus-Christ ne peut pas connaître cela. Même le stoïque, qui fait face d'une certaine manière à différentes circonstances de la vie, il ne peut pas connaître cette paix qui vient de Dieu. Je me souviens, rapidement après ma propre conversion à l'université, j'étais ami avec pas mal de non-chrétiens, j'étais en colocation avec 5 ou 6 d'autres non-chrétiens de l'époque, et l'un d'eux, qui n'était pas chrétien, bien entendu, il essayait de pratiquer, lui, un peu de spiritualité à la carte, afin de trouver un peu son zen, il disait, une spiritualité un peu bouddhiste. Il n'était pas bouddhiste vraiment pratiquante, mais il voyait qu'il y avait une certaine attirance de développer le zen. Il voyait qu'il y avait quelques changements par rapport à moi, suite à ma propre conversion à Christ. Vous voyez, D'une certaine mesure, je pense que la joie de découvrir le Christ faisait que je ne recherchais plus le bonheur dans les choses de ce monde comme je le faisais auparavant. Et il voulait me dire que sa façon à lui, il pratiquait la même discipline de passer par-dessus les circonstances de la vie. Et donc, pour finir, tous les deux, on était pareils, les mêmes. Mais il avait tort. Car chercher à passer par-dessus les choses difficiles de la vie, en essayant de balayer la réalité du mal, n'est pas le bon chemin à suivre. La foi chrétienne ne nie pas la réalité du mal, que des choses mauvaises ont lieu. Mais la foi chrétienne trouve, malgré la pauvreté ou l'abondance, un contentement plus profond que ces circonstances. Alors, je cite ce que j'ai trouvé cette semaine sur un site « Comment trouver le zen ?». Il faut dire que ça ne m'intéressait pas énormément, mais j'ai voulu trouver de nouveau des recommandations de ce genre de stoïcisme que nous pouvons encore citer à notre époque. Voici donc 10 façons rapides de trouver l'immobilité au milieu du chaos à tout moment, par nature et zen. De nouveau, il ne faut pas prendre ceci hors de contexte. Je ne suis pas en train de recommander ce que vous allez entendre. Fermez les yeux. Alors, non, fermez pas vos yeux là maintenant. Il faut plutôt écouter. Fermez les yeux en tournant votre regard vers l'intérieur. Comptez jusqu'à 10, deuxième étape. Une méthode de respiration, de yoga ancienne, pour aider à calmer l'esprit lorsque vous avez vraiment besoin de ralentir. Troisièmement, respirez profondément. Ça fait du bien. Quatrièmement, faites quelque chose de stupide, riez. Le zen arrive quand nous sommes détendus et nous sommes détendus quand nous sommes heureux. Cinquièmement, marchez ou faites du vélo au lieu de conduire. Faire un peu d'exercice chaque jour est bon pour votre cœur et votre disposition. Et le mokka, je ne sais pas ce que c'est, à l'autre extrémité devient également sans culpabilité. Sixièmement, soyez un lève-tôt. Les heures du matin sont les plus calmes. Et trouver du temps peut donner le temps pour toute la journée à suivre. Septièmement, prenez une pause de 5 minutes. La méditation peut se produire en quelques minutes et ces quelques minutes peuvent changer la vie. Réservez 5 minutes par jour pour faire une mini-séance de méditation. 8. Définissez des rappels pour maintenant. Mettez un rappel quotidien dans votre calendrier pour vous aider à arrêter et à remarquer le temps présent, le maintenant. 9. Lâchez. Tenir quelque chose signifie que vous n'êtes pas présent et ouvert. Pratiquez, laissez aller de petite façon. Et 10, choisissez zen. Alors, ce n'est pas défini exactement ce que le 10 signifie. Alors, voici un exemple. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous nous retrouverons dans certains de ces éléments, en tout cas. Un exemple de ce que le monde nous offre pour trouver le contentement malgré les circonstances. Mais le Christ nous offre une voie tout autre que cette voie-là. Si le monde nous invite à contrer la réalité avec une pensée positive, Jésus nous arrache des conséquences de nos fautes et fait de nous des citoyens d'un autre monde, citoyens du ciel. Au lieu de donc devoir imaginer positivement quelque chose qui nie la réalité du mal que je vis, nous recevons par la foi la joie de connaître celui qui me permet de ne plus attacher mon bonheur à ce que je vis dans le présent. Alors cela a énormément d'applications pour chacun d'entre nous, chers amis. Pas d'abord par rapport à notre... D'abord par rapport à notre situation économique. Ça, oui. Mais également par rapport à tout un tas d'autres circonstances. Permettez-moi quelques mots d'application alors, sur ce point-là. D'abord, parlons de notre situation d'un point de vue économique. Avons-nous appris à vivre dans la pauvreté? Je me souviens d'avoir entendu parler des missionnaires à Québec dans les années 1950, où il y avait très peu d'évangéliques, où le travail était extrêmement difficile. Et ceux qui œuvraient dans ce contexte-là avaient des revenus très, très serrés. Et le jour de Noël, après avoir économisé afin de pouvoir distribuer des petits cadeaux aux membres de leur assemblée, le couple pastoral est rentré pour leur repas de Noël. Et qu'est-ce qu'ils avaient mangé? Une boîte de beans. Mais leur fils, qui écrivait le témoignage de ses parents, disait qu'il le prenait avec reconnaissance, car ils avaient appris à vivre dans le besoin. C'est lorsque nous avons peur que le Seigneur nous met au défi, qu'au lieu d'être continuellement stressé ou amer ou dur avec les autres, car d'autres ont plus que moi, je peux apprendre de dépendre de lui, de le connaître, de le remercier. Alors avons-nous, chers amis, appris à vivre dans la pauvreté? Mais deuxièmement, avons-nous appris à vivre dans l'abondance? De ne pas croire que les moyens que j'ai sont grâce à moi, que parce que je vis au-dessus de la moyenne, je peux me permettre un peu de fierté, ou au moins d'être un peu satisfait, au lieu de voir de ce que j'ai, je l'ai comme un don de Dieu, qui permet que je continue à mettre ma confiance dans le Seigneur et que je cherche avec empressement la venue du royaume à venir. Car connaître Christ et sa paix vaut mieux que la stabilité que je peux ressentir d'avoir un terrain de X mètres carrés, d'avoir un compte d'épargne avec X montants en euros. J'ai un ami à Londres qui, lorsque quelqu'un l'a remercié pour un don très généreux pour le soutien d'un ministère chrétien, a répondu ainsi, qu'il est reconnaissant de pouvoir aider tant que le Seigneur continue à pourvoir. Il reconnaît la main de Dieu derrière ce qu'il a. Et il ne le considère pas comme le sien ultimement. Il sait que si le Seigneur décide dans sa souveraineté d'enlever cette abondance, il sera toujours capable de louer le Seigneur. Voilà pour ce qui est de l'application pour notre situation financière. Mais ce principe de contentement va plus loin que simplement celui de notre situation économique. Ça s'applique à de nombreuses circonstances. On ne peut pas nommer toutes ces circonstances. Mais circonstances que beaucoup d'entre nous, dans cette assemblée, sont en train de vivre actuellement. Certains parmi nous ont des grands soucis de santé ou des proches qui ont de tels soucis. Est-ce que mon contentement se trouve uniquement lorsque je suis en bonne santé? Lorsque tous mes proches vont bien? Ou puis-je connaître la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons connaître ici-bas? D'autres ont des difficultés familiales conséquentes et soupirent d'un rapprochement qui donnera de la joie qui pour le moment n'est pas possible au sein de la famille. Mais est-ce pour autant que je ne peux pas connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances aujourd'hui? D'autres expérimentent de la difficulté au travail, ne connaissent pas une situation paisible dans laquelle ils aimeraient travailler. Mais suis-je capable de faire face à cela par celui qui me fortifie? D'autres sont adolescents parmi nous. Et ils ressentent la pression de connaître deux mondes différents à ce stade de leur vie, le monde de leur famille, peut-être de leur foi, de l'Église, mais également le monde de leur école, de leurs amis. Et ils font leur mieux pour que ces deux mondes ne se croisent jamais. Mais lorsqu'ils se croisent, il y a souvent un peu de panique, la gêne, à qui est-ce que j'appartiens ultimement? Ce cercle-là ou ce cercle-là? Mais appartenir à Jésus-Christ par la foi, c'est de trouver une autre identité, citoyen du ciel, plus sûre, plus libératrice, une identité qui n'est pas liée à ce monde. Alors savoir cela, c'est de nous permettre de faire tout par celui qui nous fortifie. Vous avez peut-être d'autres circonstances, chers amis, mais l'apôtre Paul nous exhorte à trouver notre contentement aujourd'hui, indépendamment de nos circonstances. Nos circonstances nous permettent en fait d'exercer notre foi, de grandir, de s'entraîner, de peaufiner mes muscles d'un point de vue spirituel, d'expérimenter. Pour du vrai, le verset 13, je peux tout en celui qui me fortifie. Alors voilà pour ce qui est le contentement de Paul, une preuve de maturité chrétienne qui ne dépend pas des circonstances. Et deuxième point, normalement ce serait un peu plus court, ne vous inquiétez pas, la générosité des Philippiens, une preuve de solidarité chrétienne pour le progrès de l'Évangile. Paul n'avait pas besoin de ce don, nous avons vu cela. Ne pas donner, alors, c'est bien, car cela aide l'ouvrier dans l'église, ou le missionnaire, ou l'implanteur, à apprendre dans la pauvreté. Ça rend service de ne pas donner. C'est ça la logique de ce texte. Ce n'est pas ce que Paul dit, chers amis. Il se réjouit de leur don. Il a éprouvé une grande joie de l'apprendre, à voir refleurir votre intérêt pour moi. Au verset 14, il évoque le même langage de partenariat, de solidarité qu'il a employé au début de la lettre. Vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Ils auraient pu garder leur distance, en fait. S'identifier avec un prisonnier et sa cause, à cette époque, c'était courageux de leur part. Se soucier de Paul, s'identifier avec lui malgré la honte et l'insécurité de son emprisonnement, faisait signe de leur profond engagement à la mission de Paul. Et la participation financière, c'était bien entendu une manifestation concrète de leur engagement dans l'Évangile. Au verset 15, il les félicite du fait qu'au début de la prédication de l'Évangile, lorsque Paul a quitté la Macédoine, aucune église m'a témoigné sa... Alors, notre traduction dit sa solidarité en se mettant en compte avec moi. Vous avez été les seuls à le faire. C'est ainsi que Paul peut dire, verset 17, que ce n'est pas qu'il recherche le don. Non, ce qu'il recherche, c'est le fruit abondant porté à leur compte. Pas bien sûr qu'ainsi ils payent pour leur salut. Non, non, le fruit, c'est la bénédiction qui vient de Dieu, qui les permet de grandir encore en lui. Verset 19, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu, bien sûr, il est à la hauteur de tous leurs besoins, y compris leurs besoins matériels. Et par conséquent, il est digne de leur confiance. Ils grandissent dans cette compréhension. C'est ça, le fruit abondant porté à leur compte. Il se réjouit dans Paul de leur maturité dans ce domaine, que ces chrétiens ont collectivement exprimé leur solidarité avec l'apôtre de manière concrète à plusieurs reprises. Ça fait bon signe d'une église en vie. Non, ce n'est pas simplement qu'ils sont généreux, mais qu'ils sont généreux dans, par rapport au progrès de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas que c'est mauvais de donner à d'autres œuvres sociales ou autre, mais ce n'est pas une caractéristique forcément chrétienne, car beaucoup de personnes non-croyantes donnent pour des œuvres bonnes. Merci Seigneur, dans un sens plus général. Mais rien que des chrétiens donnent pour le progrès de l'Évangile. Et nous devons donc nous poser la question, est-ce que notre façon d'exprimer notre solidarité avec le progrès de l'évangile de Jésus-Christ fait aussi bon signe à notre époque, que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement. Alors, notons plusieurs choses rapidement avant de conclure. D'abord, ils sont enthousiastes de cette Église à participer. Ce n'est pas que Paul a recherché le don, c'est qu'il voulait y participer. Ailleurs, l'apôtre Paul dit que Dieu aime celui qui donne généreusement, de bon cœur. Ce n'est pas que ce soit forcé. Ah, ok. Oh, je dois... Qu'est-ce que j'ai en poche ici? Ah, oui, j'ai quelque chose. Je dois... Allez. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à votre travail pour le bien de l'évangile de Christ? Deuxièmement, la générosité est manifeste par une solidarité avec la famille de Dieu. Souvent, notre plus grande générosité, ici en Occident en tout cas, est réservée pour ceux qui sont de notre propre chair et os, notre famille à nous. Et je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas pourvoir pour notre famille. Mais nous devons souligner que le croyant en Christ découvre une autre famille. Et sa générosité n'est plus liée uniquement à sa propre famille. Troisièmement, le don est bien sûr un don collectif. Certes, tous contribuaient à ce don qu'ils ont apporté par Epaphrodite à Paul à Rome. Mais tous contribuaient, nous imaginons, selon d'autres écrits de l'apôtre Paul, selon leurs moyens. Il y avait bien sûr une diversité au sein de cette église à Philippe. Si on se souvient du début de cette église, Actes chapitre 16, nous avons Lydie, une femme d'affaires, qui était quelqu'un avec des moyens importants, on suppose. Et donc, nous supposons qu'elle donnait plus que donner le geôlier, qui, vous vous souvenez, aussi faisait partie de cette église à Philippe, qui, lui, probablement, était au chômage parce qu'il avait laissé partir Paul de la prison. Donc, le don était collectif, chacun selon ses moyens. Mais quatrièmement, et ça c'est plus explicite ici dans ce texte, donner financièrement pour le soutien de l'évangile fait partie de l'adoration à Dieu. Verset 18, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors dans l'Ancien Testament, il n'y avait que des prêtres qui pouvaient opérer des sacrifices agréable à Dieu. De manière figurative, même dans l'Ancien Testament, les odeurs des sacrifices montaient aux narines, si vous voulez, de Dieu. Ils sentaient le sacrifice et c'était agréable à lui. Mais le Nouveau Testament désacralise le langage de sacrifice et louange. Ce n'est plus un acte religieux lié au culte, au temple, aux prêtres, aux sacerdotes. Non, maintenant le sacrifice, c'est une expression de quelqu'un qui consacre sa vie tout entière, y compris son portefeuille, à servir le maître. Et donc, voir quelqu'un qui se donne de lui-même généreusement, y compris de son compte en banque, c'est de voir quelqu'un qui loue le Seigneur. La louange ne se fait pas uniquement ici le dimanche entre 10h30 et 11h15 à 11h30. La louange, c'est une catégorie maintenant plus large qui comprend tout ce que nous faisons avec notre vie. Nous voulons donc louer le Seigneur, alors nous devons apprendre aussi la générosité dont les Philippiens faisaient preuve. Donc, on arrive à la fin, chers amis. Une belle combinaison, n'est-ce pas? Ici, nous avons un ministre, l'apôtre Paul, qui a appris le secret du contentement. Et nous avons une église qui participe généreusement au progrès de l'évangile. Vous imaginez ce que cela aurait été si c'était une autre combinaison? Un ministre grincheux et mécontent, parce qu'il visait parfois dans la pauvreté, avec une église avare qui ne cherchait pas à contribuer pour le progrès de l'évangile. Si c'était comme ça, on n'aurait plus d'église chrétienne. Mais merci Seigneur qu'il œuvre en nous pour que nous puissions faire preuve et du contentement dont parlait l'apôtre Paul et de la générosité dont faisait preuve des Philippiens. Pourquoi cherchons-nous à grandir donc en contentement, à grandir dans notre solidarité, dans l'œuvre de Dieu? Verset 20. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est soucieux, l'apôtre Paul, pour la gloire de Dieu. Et même juste tout à la fin, ces touches perso qu'il donne à la fin, donne encore le cœur de Paul, parce qu'il dit « Saluez tous les saints en Christ Jésus, les frères qui sont avec moi, vu salut. » Alors, qui sont avec lui? Tous les saints, vu salut, principalement ceux de la maison de César. Il est à Rome. Il a évangélisé ceux qui sont de la maison de César, de l'empereur. Et eux, vu salut, aussi. Ça, c'est sa priorité. Il veut encore voir d'autres gagné pour le Christ. Et il veut voir une église qui est derrière cette mission que le Seigneur nous a consacrée. Et donc, il conclut, et moi je conclue également, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Alors,